Je cherche à dire, à qui voulons-nous ressembler ? À Pilate ou à Jésus ? Représentons-nous la scène dont il est question dans cet évangile. Jésus vient d'être arrêté, il sait qu'il est condamné à mort, il a choisi ce moment de la passion pour donner sa vie au monde. Et le voilà devant Pilate, le procurateur romain, celui qui est chargé de représenter à Jérusalem le pouvoir impérial. A priori, c'est lui le vrai roi, et Jésus n'est qu'un condamné, comme un brigand, comme il le sera sur le calvaire entre de l'âme. Apparemment, Pilate a plus de pouvoir. Mais n'ayons pas peur de nous situer dans ce face-à-face entre Pilate et Jésus. Car, au fond, appuyé sur notre foi chrétienne, nous savons de nous qui est le vrai roi. Le roi de l'univers, le roi crucifié, et d'abord bafoué, couronné d'épines. Alors, mettons-nous là, tout près de ce face-à-face, Pilate, Jésus, et regardons-les un peu comme un miroir, regardons-nous dans le visage de Pilate et puis dans le visage de Jésus. Pilate, on connaît Pilate, les rois, les empereurs, qui bien souvent sont orgueilleux de leur pouvoir. On en connaît Pilate aussi aujourd'hui au XXIe siècle. On en connaît les tyrans. On connaît des leaders terroristes qui entraînent les guerres, qui suscitent la peur, qui imposent leur pouvoir. Seulement, il y a deux choses qui manquent à Pilate, au moins. L'intelligence et le courage. Pilate, pour ce face-à-face avec Jésus, ne comprend pas vraiment de quoi il s'agit. Il n'a pas la foi, il n'est pas dans le peuple d'Israël, mais il ne reconnaît pas, lui, comme le connaissent les Juifs, que Dieu est roi, que Dieu est Seigneur, Seigneur de l'histoire, maître de l'univers, créateur. Il veut envoyer un juste Messie roi pour régner sur Israël. Pour attirer tous les peuples. Ça, tout ça, Pilate ne le sait pas. On ne peut pas lui en vouloir, pas de sa faute, mais on a l'impression quand même qu'il ne veut pas comprendre. En tout cas, le pouvoir l'aveugle, et il va condamner Jésus en n'arrivant pas à comprendre ce que lui dit Jésus, même lorsque Jésus lui dit : tu sais, ma royauté, mon royaume n'est pas de ce monde. Tu pourrais comprendre, Mme Pilate. Tu sais qu'il y a des hommes qui ont été abolis dans ce monde, qui reconnaissent un autre roi que toi, un roi des cieux, un roi de l'univers. Alors, Pilate, tu ne veux pas comprendre, toi qui es censé être intelligent. Est-ce qu'on est un peu comme ça, quelquefois, à regarder les affaires du monde comme si tout dépendait de nous, à regarder notre histoire personnelle comme si nous avions toujours raison, même contre Dieu. Pilate manque d'intelligence, au moins de connaissance. Il manque aussi de courage. Lui qui va finir par condamner Jésus, comme on lui demande te laisse influencer, déjà ça c'est un manque de courage, tu te laisses influencer par ceux qui apparemment parlent plus fort, et en fait sûrement les pharisiens, la partie de la foule qui condamne Jésus, qui préfère Barabbas, elle va l'emporter parce que elle crie plus fort, et puis là elle va se laisser conduire par ceux qui parlent plus fort, par la pensée unique, par ce que tout le monde pense, ce que tout le monde dit, ce que tout le monde fait, c'est forcément mieux, parce que c'est tout le monde. Manque de courage. Pilate, il n'a pas reconnu quand même que c'était un innocent, Jésus. Et en plus, après l'avoir condamné à mort, il va s'en laver les mains. Je ne suis pas responsable. Manque d'intelligence, manque de courage. Au fond, il n'est pas vraiment libre. Il n'a pas accès à ce chemin de sa conscience qui lui montre, qui pourrait lui montrer la vérité. Surtout que la vérité, elle est présente en personne devant lui. Oui, mais sans intelligence, sans courage, il ne voit pas, ou il ne veut pas voir. Alors il s'enfonce dans l'erreur. Et Jésus avait dit, peut-être Pilate l'a entendu dire, je ne sais pas, la vérité vous rendra libre. Ah, si nous pouvions réentendre dans cette fête de Christ voix, ce n'est pas l'accumulation de pouvoir ou de savoir qui rend vraiment libre, même si bien utilisé, le savoir et le pouvoir peuvent être très utiles au monde et peuvent être habités par une charité immense. Mais quand le savoir et le pouvoir sont tournés vers nous-mêmes, avec orgueil, avec égoïsme, c'est pas la vérité, on n'est pas vraiment libre, on est esclave en fait. De nos pulsions, de nos erreurs, de la pensée du monde qui s'impose d'une manière ou d'une autre. Mais nous regardons Jésus ce matin. Et nous savons mieux que Pilate. Et nous avons le courage, mieux que Pilate sûrement, de reconnaître que c'est Jésus notre roi. Pilate a joué la comédie, il l'a fait affubler d'un manteau royal et d'une couronne d'épines. Quel mensonge, quelle comédie. Mais nous savons que c'est lui le vrai roi. Dans quelques semaines, nous suivrons les mages qui vont déposer l'or, l'encens et la myrrhe devant ce petit bébé de la crèche. Ils vont déposer, j'imagine, s'ils sont rois, ils n'étaient sans doute pas des rois, mais on les appelle les rois mages parce qu'ils étaient familiers des rois. Ils allaient de cour en cour pour dire leur prophétie, leur prédiction. Je les imagine s'ils ont une couronne, en tout cas la déposant, et on la voit dans plusieurs œuvres d'art, déposant aussi des couronnes devant le petit bébé de la crèche, un petit enfant, de rien du tout, dans une étable. C'est lui vraiment. Et puis après la multiplication des pains, Jésus va manifester qu'il a un pouvoir extraordinaire de nourrir toutes les foules, et pour les foules d'Israël, être nourri dans un lieu désert, auprès du lac, être nourri dans un désert, avoir traversé l'eau. C'est Dieu seul qui peut faire ça, comme il l'a fait avec la manne, avec son peuple libéré d'Égypte, libéré d'un autre roi sanguinaire. Alors, forcément, les gens, après la multiplication du pain, vont dire, mais c'est lui le roi, c'est Jésus. Ils veulent le faire roi, le faire roi avec leur règle à eux, avec la logique du monde. La royauté de Jésus n'est pas de ce monde. Et après la multiplication du pain, quand tout le monde veut le faire roi, il s'en va. Il s'enfuit dans la montagne tout seul pour prier son Père, pour puiser de nouveau auprès de son Père cette dignité royale qui est la sienne, mais qui n'est pas celle du monde au sens de la logique du monde. Ô Jésus, notre vrai roi, nous croyons en toi. Nous allons dire dans le credo, quand nous allons proclamer tout à l'heure, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Dieu, vrai Dieu, né du vrai Dieu, consubstantiel au Père, de la même nature divine que le Père. Par lui, tout a été fait. Il est assis à la droite du Père, il reviendra pour la gloire, pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Oh, frères et sœurs, que ces mots ne glissent pas dans notre esprit comme ça, comme une routine. Qu'ils viennent toucher notre cœur. Qu'ils viennent dire à notre cœur, à notre conscience, oui, il est assis à la droite du Père, celui en qui tu crois, celui auquel tu vas communier, tu vas recevoir le corps en communion. Il est le juge du vivant et du mort, son règne n'aura pas de fin. Sa domination, comme disait la première lecture du livre de Daniel, ne sera jamais détruite. Elle est éternelle, sa royauté ne sera jamais détruite. Et puis, en reconnaissant qu'il est notre roi, qu'il est roi de l'univers, créateur, qui tient la création dans sa main, comme certaines représentations aussi le montrent, du petit enfant Jésus qui tient déjà un globe dans sa main, avec une croix en haut du globe. Ah, elle est là, la royauté de Jésus. Et puis, il est roi de la société, au fond, comment régler les problèmes économiques, politiques, sociaux, psychologiques. On peut, et c'est bien, avoir toutes sortes de mesures qui sont prises pour aider, pour soutenir, pour guérir, pour travailler à la beauté du monde, mais au fond, nous savons bien, et vous savez bien, vous qui êtes de cette génération qui a pris conscience du dérèglement climatique, et avec lui, du dérèglement finalement de notre rapport au monde, de notre relation au monde. Mais au fond, qui peut faire régner la paix, la vraie paix, sinon celui qui, que nous allons appeler tout à l'heure l'agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Et puis, Jésus n'est pas seulement le roi de l'univers, le roi de notre société, mais il est le roi de nos cœurs. Lui qui va dire aux disciples, lors du lavement des pieds, le jeudi saint, vous m'appelez Maître Seigneur, vous avez raison, car je le suis. Maître Seigneur, roi. Mais comment? Et il se met à laver les pieds de ses disciples, en leur disant faites de même. C'est en étant serviteur qu'on est roi. Et faisons un dernier pas en avant. Pour contempler non seulement que Jésus est le roi, mais que nous sommes rois. Nous sommes un peuple royal. Vous allez me dire, vous savez, on retombe dans l'orgueil de Pilate. Non! Parce que nous sommes unis à Jésus. Parce que le baptême a fait de nous un seul être avec Jésus, le vrai roi. Alors, comme le disait cette lecture de l'Apocalypse, je vous invite à relire si vous pouvez chez vous. À lui qui nous aime, lui c'est Jésus. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père. À lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Lui qui nous aime, nous a délivrés et a fait de nous un royaume et des prêtres. Un royaume et des prêtres. Déjà par le baptême, prêtres, prophètes et rois. Par le baptême, par la confirmation, il scelle notre identité royale, prophétique et sacerdotal, qui fait de nous des vrais prêtres, rois, rois serviteurs et prophètes. Alors parmi nous, parmi vous, il y aura sûrement des prêtres consacrés pour le service, pour représenter le service que Christ, unique prêtre, souverain prêtre, rend à son peuple et au monde, et nous sommes tous en baptême, porteurs de cette royauté de Jésus. Et alors, nous pouvons être libres, libres de toutes ces choses qui veulent nous commander, nous diriger, pas seulement de l'extérieur, mais à l'intérieur de nous. Nous sommes libres par rapport à la pensée unique, par rapport aux mensonges, par rapport aux addictions, par rapport aux peurs, ces choses qui pourrissent notre monde avec des faux pouvoirs. Et nous sommes un peuple de roi. Je terminerai par cette petite citation de saint Ambroise. Saint Ambroise, il est représenté comme les quatre pères de l'Église, qui sont ces magnifiques statues au fond de l'Église. Et saint Ambroise, je crois que c'est celui qui est près de la fenêtre de droite, ensemble. Il dit ceci: celui qui soumet son propre corps et régit son âme, sans se laisser submerger par les passions, est son propre maître. Les passions, ça veut dire les choses qui nous entraînent vers nos désirs égoïstes. Celui qui soumet son propre corps et régit son âme, et le roi de son âme, sans se laisser submerger par les passions, est son propre maître. Il peut être appelé roi, parce qu'il est capable de régir sa propre personne. Il est libre et indépendant, et ne se laisse pas captiver par l'esclavage. Chers amis, en contemplant le Christ roi, nous nous contemplons nous aussi comme un miroir, parce qu'il est notre frère, parce que nous sommes ses frères et sœurs, et parce qu'il nous attire dans son royaume, pas seulement au-delà de la mort, mais dès maintenant, pour éclairer le monde, pour faire que le monde soit davantage ressemblant au royaume de Christ. Alors, à qui vont nous ressembler ? À Pilate ou à Jésus ? Amen.